Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. La feuille de route des négociations sur l'UNEDIC heurte les partenaires sociaux qui réservent leurs réponses. Explication de Catherine Pétillon. Plus 1 milliard d'euros pour la transition écologique dans le budget 2019. Pourquoi faire ? Élément de réponse, Véronique Rebérotte. Theresa May se cabre après avoir été rabrouée ou presque par ses pairs européens à Salzbourg. Ce n'est pas elle, mais les négociations sur le Brexit qui sont dans l'impasse, analyse d'Antoine Gignot. Bilan atone d'une rencontre à Paris entre Emmanuel Macron et Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui ce soir appelle le quartet à faire barrage aux États-Unis. La gentrification à la portugaise propulsera demain dans les rues de Porto et de Lisbonne les opposants à une politique du logement qui touche cette fois la classe moyenne. Invité de cette édition, Maria João Costa du collectif Habitat. Deux slogans dominent : stop aux expulsions et halte aux spéculations. Quel calendrier pour les négociations sur l'assurance chômage ? Au terme d'une réunion aujourd'hui au ministère du Travail, le gouvernement demande aux partenaires sociaux de réaliser de 3 à 3,9 milliards d'euros d'économies en 3 ans. Les syndicats ont aussitôt dénoncé, je cite, une logique budgétaire. Les syndicats qui, comme le MEDEF, se laissent du temps jusqu'à quelques semaines pour accepter ou bien refuser de s'asseoir à la table des négociations. Catherine Pétillon, le gouvernement n'a d'ailleurs pas seulement livré aux partenaires sociaux un objectif chiffré.
On connaît aussi la philosophie et l'objectif général de cette réforme. L'exécutif la résume ainsi, lutter contre le chômage en favorisant l'emploi durable et en répondant aux besoins des entreprises. Alors aujourd'hui, les organisations syndicales et patronales sont sorties attentistes et plutôt refroidies par la présentation de la lettre de cadrage qui leur a été faite. Ils dénoncent une logique budgétaire, vous le disiez, entre 1 milliard et 1,3 milliard d'économies sur 3 ans. Les économies qui se font sur le dos des chômeurs, se sont inquiétés les syndicats à la sortie. Pour faire ces économies, le gouvernement demande aux partenaires sociaux de revoir plusieurs règles d'indemnisation des chômeurs, en particulier les règles de cumul salaire-chômage et notamment d'en limiter la durée. Seront aussi concernées l'activité conservée. Il y a aussi l'idée d'un bonus-malus pour contraindre les entreprises qui abusent des contrats courts, dispositif qui suscite une vive opposition du patronat depuis longtemps. Le sujet revient cette fois dans des termes un peu différents. Désormais, il est question de responsabilisation des entreprises pour agir sur les sorties d'emploi évitables. Les termes précis, c'est ce que regarderont les partenaires sociaux. Ils n'ont eu aujourd'hui qu'une présentation orale. Ils devraient recevoir le texte de la lettre de cadrage la semaine prochaine. Et ce n'est qu'après que les organisations diront si, oui ou non, elles acceptent de négocier.
Le budget du ministère de la Transition écologique, lui, devrait augmenter de 3,1% en 2019 par rapport à 2018, soit une enveloppe supplémentaire d'1 milliard d'euros. Le ministère ainsi que ses agences et opérateurs sont toutefois frappés par de substantielles réductions d'effectifs. Véronique Rebérotte annonce conforme à ce qui avait été articulé il y a peu par Matignon.
C'était quelques jours après la sortie du gouvernement de Nicolas Hulot, ébranlé par ce départ. Le Premier ministre se voulait rassurant. Édouard Philippe annonçait donc début septembre que le budget du ministère de la Transition écologique serait en forte augmentation en 2019. Résultat d'un arbitrage remporté par Nicolas Hulot, précisait-on à Matignon, mais pas suffisant, semble-t-il, pour le retenir. 1 milliard d'euros, c'est le chiffre donc annoncé aujourd'hui par le cabinet du nouveau ministre, François de Rugy. Nous avons des moyens supplémentaires sur un peu tous les sujets, des transports à la biodiversité en passant par la santé, dit-on pour l'instant laconiquement au ministère de l'écologie. Parmi les postes les plus importants, et bien sûr en direction de la transition écologique, aide directe aux énergies renouvelables, investissement dans les transports propres, mais aussi chèque énergie distribué aux ménages les plus modestes pour les aider à payer leurs factures d'énergie. Alors l'an passé, le ministère de la transition écologique avait déjà vu son budget augmenter de 500 millions d'euros, mais avait dû en contrepartie bien accepter de se serrer la ceinture en moyens humains. Une réduction d'effectifs de plus de 1000 postes demandés à nouveau l'an prochain. Pas de quoi faire de très grands pas dans la transition écologique, disent déjà les associations environnementales.
Le suicide d'un réfugié au centre de rétention de Toulouse, Corne-Barieux. Il s'agirait d'un ressortissant tunisien, âgé de 31 ans, arrivé au centre vers la mi-août, selon l'association qui vient en aide à celles et ceux qui ont pris la route de l'exil forcé. Il y a trop de monde dans ce centre, les policiers sont débordés, tout le monde est débordé, déclare l'un des responsables. Ils sont de plus en plus nombreux, à La République En Marche comme au Parti Socialiste, à demander à Manuel Valls de démissionner de son siège de député à l'Assemblée nationale. Selon les dernières informations, l'ex-premier ministre dira mardi s'il brigue ou non la mairie de Barcelone. Il est 22h05 à Paris. Mahmoud Abbas appelle le quartet diplomatique à jouer pleinement son rôle de médiateur entre Israéliens et Palestiniens et ainsi de ne pas laisser les États-Unis en position de force. Souvenons-nous que Washington a entre autres annulé sa dotation à l'agence de l'ONU, l'UNRWA. Le président de l'autorité palestinienne a été reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. Aucune déclaration commune à l'issue de leur entrevue, Christian Chesneau.
Écoutez, officiellement, l'Élysée a justifié l'annulation des déclarations de la presse pour une question d'horaire. C'est sans doute aussi parce que les deux hommes n'avaient pas forcément quelque chose de substantiel à délivrer. Vous savez, Mahmoud Abbas est un numéro un palestinien très affaibli. De son côté, la France pèse peu dans un dossier monopolisé par l'administration américaine. Alors Mahmoud Abbas est venu chercher à Paris du soutien auprès d'Emmanuel Macron. Pour lui, c'est l'heure de compter ses amis à Ramallah. Les caisses de l'autorité palestinienne sont vides, les suppressions du soutien financier américain sont des coups très durs. Déjà, dans une note de juin dernier, le service économique du consulat de France à Jérusalem constatait que la situation financière de l'autorité palestinienne était plus que jamais critique du fait de la baisse continue de l'aide internationale depuis 2014. Or, cet apport extérieur est vital pour boucler son budget car elle ne peut recourir aux instruments habituels d'endettement qu'utilisent les États partout dans le monde. Le président français est conscient de cette situation extrêmement tendue et dangereuse. La France doit d'ailleurs participer à l'ONU à une réunion tripartite avec la Jordanie et la Turquie pour renflouer les caisses de l'UNRWA. À New York, Mahmoud Abbas, lui, a bien l'intention de mobiliser la communauté internationale pour compenser le manque à gagner des décisions américaines, une sorte d'appel au secours.
Et un Palestinien a été tué sans autre blessé par des tirs israéliens aujourd'hui lors de nouveaux affrontements le long de la frontière avec la bande de Gaza. Le président tanzanien décrète 4 jours de deuil national au lendemain du naufrage d'un ferry dans le sud du lac Victoria. 131 morts selon un dernier bilan. John Magufuli ordonne l'arrestation des opérateurs du ferry d'une capacité d'accueil de 100 personnes. Selon des témoins, 200 passagers étaient à bord au moment du drame. Selon le ministère turc de la Défense, Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine sont tombés d'accord pour fixer les limites de la zone démilitarisée qui doit être mise en place dans la province syrienne d'Idlib, théoriquement à la mi-octobre. Au lendemain du rejet de ses propositions lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de Salzbourg, Theresa May déclare « les négociations du Brexit sont dans l'impasse ». Riposte de la première ministre britannique qui maintient son idée de relations économiques étroites avec création d'une zone de libre-échange pour les biens industriels et les produits agricoles. Theresa May exige d'être traitée avec respect et assume d'être en première ligne, de faire rempart en somme aux hostilités européennes. Londres, Antoine Gignot.
C'est un discours qui donne à Theresa May un peu de sursis. La silhouette noire de la première ministre debout devant les drapeaux britanniques, la rhétorique sur le manque de respect de l'Union européenne, tous les codes, tous les symboles sont là pour rassurer les partisans du Brexit. Nous quitterons l'Union européenne, leur dit Theresa May, même s'il faut pour cela renoncer à signer un accord commercial. Conséquence, le gouvernement se resserre. Michael Gove, secrétaire d'État à l'environnement, Liam Fox, chargé du commerce international, qui avait pris leur distance, redisent leur implication, mais les critiques restent violentes, notamment à gauche. Jeremy Corbyn, chef de file des travaillistes, juge Theresa May incapable d'obtenir un bon accord. Elle est dans une situation intenable, commente Keir Starmer, l'un des responsables du parti. Cette situation épineuse, c'est aussi ce que met en avant Jean-Claude Juncker, le chef de la Commission européenne, compare les négociations à la parade amoureuse de 2 hérissons. Il faut faire attention, dit-il, à ne pas s'égratigner.
En Allemagne, les sociaux-démocrates ont bien compris que la fracture n'était pas réduite entre la CDU et la CSU et n'ont pas oublié qu'il est toujours bon en politique de faire boiter ses adversaires autant que faire se peut. Ainsi, la patronne du SPD, Andrea Nahles, a-t-elle demandé à la chancelière de renégocier le compromis qui a conduit à la nomination à un haut poste au ministère de l'Intérieur d'Hans-Georg Maaßen, l'ex-chef du renseignement intérieur qui avait douté à haute voix de l'existence de chasse à l'homme à Chemnitz, dans la Saxe. Cyril Sauvageau.
L'histoire n'est pas terminée. Angela Merkel pensait pourtant avoir trouvé une porte de sortie à cette crise qui plombe son 4e mandat. Mais le recasage de Hans-Georg Maaßen à un poste stratégique au ministère de l'Intérieur a remis le feu aux poudres. Le SPD revient donc à la charge sous la forme d'une lettre signée Andrea Nahles, la chef de file des sociaux-démocrates. « Nous avons commis une erreur », écrit-elle, citant les réactions très majoritairement négatives des citoyens. « Cela devrait, je cite, nous donner toutes les raisons de suspendre et de reconsidérer cet accord. La patronne du SPD était condamnée à ce rétropédalage après les critiques virulentes dans son parti. L'affaire Hans-Georg Maaßen n'a donc pas fini d'empoisonner la vie politique allemande et de menacer la stabilité même de la Grande Coalition. Pendant ce temps, le parti d'extrême droite, AfD, se porte mieux que jamais. Il est crédité de 18% des voix en cas d'élection anticipée, un point de plus que les sociaux-démocrates.
Cyril Sauvageau, la crise du logement au Portugal, hausse des expulsions et flambée des prix de vente et des loyers. Des dizaines d'associations et collectifs appellent à manifester demain dans les rues de Porto et Lisbonne. Invité, comme convenu de notre édition, Maria João Costa du collectif Lisboète Habitat. Bonsoir.
Bonsoir.
Et première question, quelles sont les classes sociales touchées par cette crise du logement?
Je dirais que sont tous les classes sociales, sauf les très riches, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, on avait des gens qui n'avaient pas de maison au Portugal, qui habitent encore à des baraques, quoi. Et on a beaucoup de gens qui attendent leur place et leur maison dans le système de maison sociale. Mais il y a peut-être un, deux ans que cette crise touche aussi la classe moyenne. Et c'est ça qui est nouveau. Mais c'est ça, ça vient sur un problème déjà très ancien de manque d'habitation au Portugal. Alors je dirais, sauf les très riches, tout le monde a un problème presque.
À mes côtés, Annabelle Grelier du service économique de la rédaction de France Culture. Annabelle, c'est à vous.
Oui, alors en 2012, Maria João Costa, les Golden Visa ont facilité l'obtention de la résidence permanente à des acheteurs donc, de biens immobiliers. Un an plus tard, il y a eu le statut de résident non habituel qui a permis par exemple aux retraités étrangers de ne pas payer d'impôts sur leur pension pendant 10 ans. Et on sait qu'aujourd'hui, 30% des acheteurs étrangers sont des Français. Comment percevez-vous cet afflux? Est-ce que vous vous sentez menacée?
Non, pas spécialement des Français, quoi. Ça, c'est des gens très riches qui viennent ici et qui font les prix beaucoup augmenter.
L'immobilier alors, aurait augmenté de plus de 30% à Lisbonne, par exemple.
Et là, tu parles des moyennes. Il y a des quartiers où c'est augmenté 90% ou quelque chose comme ça, hein. Alors, ce que tu vois, ce sont des moyennes. C'est la même chose qu'on dit Portugal a sorti de la crise, mais ça, tu parles des moyennes. Ce qu'on sait ici, c'est que l'inégalité entre classes, entre les pauvres et les riches, ça a tellement augmenté.
Alors, comment les gens se logent? Où habitent-ils? Est-ce qu'ils sont obligés de quitter le centre-ville, par exemple?
Bon, il y a des gens qui restent dans la rue, il y a des gens qui vont hors de la ville pour la ultra périphérie, très très loin. Il y a des gens qui se logent chez la famille, il y a tout ça.
Maria João Costa, dernier point. Demain, donc, votre association, comme des dizaines d'autres, appelle les uns et les autres à manifester dans les rues de Porto et de Lisbonne. Le message, ce serait la reprise est là, mais la reprise ne profite pas à tout le monde?
Non, le message, c'est qu'on veut que stop les expulsions. C'est la première demande. La deuxième demande, c'est qu'on stoppe la spéculation immobilière, justement. Les régimes spéciaux, les passes gold, les résidents non habituels, ça doit finir parce qu'il y a de la place pour ces gens-là et ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour les Portugais moyens et encore moins pour les Portugais qui sont plus pauvres. On a un salaire minimum de 500 euros. Alors, pas possibilité de se payer un logement au prix qu'il est maintenant.
Demain, le message, il est européen.
En tout cas, on a maintenant une grande rencontre d'Européens, internationaux, de plus, je ne sais pas, 25 groupes d'activistes d'Europe qui sont ici pour échanger leur expérience avec nous. Et alors, on sait très bien que ça, c'est un problème qui n'est pas du tout exclusif du Portugal. On sait que c'est le capitalisme maintenant qui utilise le logement comme moyen d'accumulation de capital. Alors, c'est un problème, c'est pas du Portugal, il y a des particularités, mais c'est la France lutte, l'Angleterre lutte, la Grèce, tout ça. On est en train de se céder, disons comme ça.
Donc le mot d'ordre de ces manifestations, c'est le droit au logement.
Oui. C'est pour nos vies pour nos maisons, on lutte. On sait qu'une vie digne, ça c'est lié à un logement digne. Alors, on lutte réellement pour une vie ici, au Portugal.
Merci à vous. Merci beaucoup, Maria João Costa, du collectif Lisboète Habitat. Et merci à vous, Annabelle Grelier. Quelques mots de la météo de demain, samedi. Temps gris et pluvieux sur le nord et le nord-ouest. Temps ensoleillé au sud. Cette édition a été préparée avec Julien Loquet, la technique Anthony Thomasson.